Et j'ouvre cette libre antenne ce soir avec l'appel de Balkair. Bonsoir à vous, Balkair.
Bonsoir à vous, Sabine.
Alors, quelle est la raison de votre appel, Balkair ?
Alors, déjà, je suis très content de vous avoir en direct. Depuis le temps que j'écoute les émissions. Avant de répondre à votre question, je voudrais bien répondre à la vôtre en vous disant à qui je pense tous les soirs avant de m'endormir. Je pense à mon épouse profondément, plus qu'avant, parce que actuellement elle est en train de passer une période très difficile dans sa vie depuis le premier confinement. C'est d'actualité parce qu'on en est au deuxième actuellement. Au fait, grosso modo, elle a contracté une maladie mentale pendant le premier confinement. Ou bien ça s'est déclenché...
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est probablement, ça a été un facteur déclenchant de quelque chose qui est sous-jacent.
Exactement.
Quelle est cette maladie qui a été diagnostiquée?
Au fait, le post-maniaque.
D'accord.
Donc, elle fait tout ce qu'elle aime, mais avec une intensité affreusement dangereuse. Un exemple bête, on est parti acheter des chaussures, on est sorti avec une vingtaine de paires. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Et des exemples, j'en ai plusieurs comme ça.
Et à l'inverse, elle a des phases de dépression complète?
Non, pas du tout.
Non, elle est que dans l'excès.
Exactement. D'accord. Toujours dans l'excès, elle n'a pas la phase négative, elle n'a que la phase positive. Parce que c'est une personne en fait très joyeuse, très très agréable à vivre, etc. Donc elle est toujours dans cette émotion d'excitation. Elle est dans les activités habituelles. Hein. Ça veut dire quand elle fait les courses, elle en fait pour un régiment. Quand elle fait le ménage, elle le fait d'une manière à en souffrir après, parce que là, actuellement, elle n'a plus l'usage de ses pieds carrément. Elle contracte des maladies physiques aussi, et je suis en train de courir tout le temps à droite, à gauche, pour prendre des rendez-vous avec des spécialistes, etc. Au fait, bref, pour aller dans l'histoire, au fait, vers la fin du premier confinement, elle a commencé à délirer un petit peu. Je me suis rendu compte.
C'est-à-dire ça se manifestait comment? Juste que je comprenne bien avant que vous continuiez, Balkair, ce comportement un peu excessif, visiblement, vous l'avez toujours connu comme ça. Le côté maniaque pour le ménage, de faire les choses...
Non, mais pas avec cette intensité, parce que...
D'accord, mais quand même, c'est quand même un trait de son caractère, si je comprends bien.
Oui, c'était quelqu'un qui était très carré, propre. Elle était un petit peu maniaque, mais pas maniaque. Par exemple, pour le rangement, il faut que ça soit droit, il faut que ça soit... Vous voyez ce que je veux dire? Les choses doivent être rectilignes. Elle aime bien les choses qui sont homogènes.
Ça la sécurise probablement, oui.
Voilà.
Et donc, vous me parlez de crise de délire, donc ça s'est manifesté comment, ça, pendant le premier confinement?
Alors, pour le premier confinement, elle a commencé à essayer de faire, vers la fin du confinement, à faire tout ce qui est interdit. Ça veut dire partir chez ses copines, inviter des gens, des trucs, enfin, tout ce qui était interdit, quoi. Et j'ai gardé les enfants des autres.
Être dans la provocation, peut-être, c'est ça, non?
Non, parce qu'elle est très gentille, donc elle accepte tout ce qu'on lui demande, quoi.
Et bien, si vous me dites qu'elle voulait braver les interdits, ça lui apportait quoi de faire ça?
Rendre service. C'était pour rendre service à ses copines. Ses copines, elle l'invitait, elle voulait partir. Moi, parce qu'on a deux enfants aussi, donc je m'opposais à ça. Et... C'était tendu vers la fin, au fait. Ça s'est tendu parce que, elle voulait faire tout ce qui était interdit. Je ne pouvais pas l'accepter, surtout pour les enfants. Mmh. À l'époque, on nous disait que les enfants, c'était un facteur pour la maladie, etc. Bon, maintenant, c'est l'inverse, mais à l'époque, c'était ça. Et moi, j'interdisais à mes enfants d'aller voir d'autres enfants, bien qu'ils étaient avec eux à l'école, etc. Et il fallait patienter, et voilà, et ils se sont revus après, et ça s'est bien passé. Le drame dans tout ça, c'est que après le confinement, elle a disparu subitement avec mes enfants. Et ça, c'était un choc pour moi, parce que je suis rentré du boulot, ben, il n'y avait pas la chambre des enfants, il n'y avait pas leurs habits, il n'y avait pas ma femme, il n'y avait pas mes enfants. Elle a disparu.
Aucune explication ?
Non, rien.
Rien.
Donc, moi, je me suis déplacé au commissariat pour signaler le fait. Mmh. Et bizarrement, ben, elle y était, dans la salle d'attente du commissariat. Et je me suis assis à côté d'elle. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais quoi ici ? Ben, elle ne m'a même pas répondu. Elle était dans un état second, parce qu'elle faisait des gestes en fait en avant et en arrière.
Les enfants étaient où ?
Jusqu'à présent, je ne sais pas. Peut-être c'est une copine sûrement. Hum. Sûrement c'est une copine du quartier. Donc elle faisait des mouvements en avant et en arrière comme ça. Je lui dis, écoute, tu fais quoi ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle m'a pas répondu. Elle est partie voir l'accueil du commissariat. Deux minutes après, on m'a appelé. Monsieur Marron, oui, moi. Et je me suis retrouvé, au fait, en garde à vue tout de suite. Alors que moi, je me suis déplacé pour faire une main courante, pour dire que ma femme a disparu avec mes enfants, je ne sais pas où ils sont. Bref, je me suis retrouvé en garde à vue. 24 heures après, il y a eu une confrontation.
Et pour quelle raison vous avez mis en garde à vue ?
Pour quelle raison ? Pour violence conjugale.
Ah, c'est ça.
Oui, ça c'était le comble. 24 heures après, il y a eu une confrontation avec mon épouse et ils ont constaté qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans ses propos. Et ils m'ont libéré. Ils m'ont libéré, donc moi je suis resté choqué parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et les jours passés, j'ai découvert plus tard où elle se trouvait, chez un membre de sa famille avec mes enfants. Elle m'a privé de mes enfants pendant un mois et demi. Je les ai eus deux ou trois fois par téléphone. Après ce mois et demi, elle a disparu dans le sud. Elle a fait une escapade dans le sud. Elle a dépensé à peu près 10 000 euros pour des vacances ici et là. Et au bout d'un moment, elle a atterri aussi chez un membre de sa famille, et c'est là-bas qu'elle a déclenché, au fait, sa maladie. C'est vraiment accentué, parce qu'elle a vécu, quand elle était enfant, j'ai découvert qu'elle a vécu là-bas des événements très douloureux pour elle. Entre autres, un viol, et elle a assisté, au fait, à des infidélités de la part de certaines personnes à l'époque, c'était dans les années 80, des infidélités qui ont fait qu'il y a eu des enfants illégitimes dans sa famille, etc. Et ça s'est déclenché là-bas et elle a eu beaucoup de disputes avec sa famille suite à ça. Après ça, elle est rentrée le 1er août sur Paris à minuit. Elle m'a appelé pour la récupérer avec mes enfants. Et dans ces vacances, au fait, j'ai eu mes enfants sur WhatsApp et je les ai vus. Et ben, ils se sont transformés en individus qui vivent dans la jungle, quoi. Des enfants avec des cheveux pas coupés, des ongles pas coupés, ouais, des traces, des marques d'hématomes.
Ouais.
J'ai un enfant qui a été renversé par un cycliste. Enfin, ils ont passé des moments très difficiles.
Balker, on va marquer une courte pause, si vous le permettez. On reprend notre conversation dans quelques secondes.
Il n'y a pas de souci.
Merci à vous.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Alors, Balker, vous me disiez juste avant la pause que pendant ces quelques semaines passées avec votre femme, les enfants n'ont pas été très bien...
Ils ont souffert.
Ils n'ont pas été très bien traités.
Ils étaient livrés à eux-mêmes. même parce qu'elle était malade et les membres de sa famille ne s'en occupaient pas. Donc,
quel âge avait-il ? Vous ne m'avez pas dit ça.
Les enfants ?
À ce moment-là, oui.
4 et 8 ans.
4 et 8, d'accord.
Oui. Donc, en fait, c'était très difficile pour moi de les voir dans cet état. Et j'ai alerté le commissariat de ma ville. Et ils m'ont dit qu'il y a un système que je pourrais faire, c'est d'alerter la police de la ville où elle était et aller les récupérer de moi-même. J'étais sur le point de le faire et soudain elle m'appelle en urgence, elle me dit « Sauve-moi, je suis en danger de mort ici, je prends un TGV, tu viens me récupérer à Montparnasse à minuit. » J'étais là récupérer le 1er août à minuit. Et quand elle est descendue du TGV, elle est juste tombée parce qu'elle était à bout de force. Je l'ai récupérée avec mes enfants. On est rentré à la maison vers 3h du matin. Je leur ai servi à manger. Ils sont couchés. Et le lendemain matin, vers 3h, elle m'a dit « Tiens, je vais aller me reposer dans l'appartement de mes amis. » Elle avait des clés. C'était à quelques kilomètres. J'ai dit, écoute, oui, t'as raison, t'es fatigué, vas-y, repose-toi, moi je garde les enfants. Elle est repartie et le lendemain, elle m'a dit qu'elle ne reviendrait plus. Donc, encore un choc. Que dois-je faire? Que dois-je dire aux enfants? Donc, j'ai encaissé. J'ai essayé de la raisonner, elle ne répondait plus. Elle ne répondit plus à mes appels pendant 2 jours. Au bout d'un moment, je m'inquiétais. Donc j'ai appelé les pompiers. Ils se sont déplacés la voir. Elle dormait. Donc après, les pompiers m'ont rappelé et ils m'ont pratiquement engueulé parce que je les ai appelés soi-disant pour rien.
Ah ben oui, mais il fallait mieux vérifier quand même.
C'était... Exactement. Ah oui. Je me suis fait engueuler, j'ai encaissé, c'était pas grave. Le lendemain, un hôpital m'appelle me disant que mon épouse est dans les urgences et comment ça se fait que vous n'êtes pas au courant, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit écoutez, ma femme a quitté le domicile toute seule il y a 3 jours. Moi, je garde les enfants chez moi et j'ai appelé les pompiers hier. Je me suis fait engueuler parce que j'ai appelé pour rien et maintenant, vous m'appelez, vous me dites qu'elle est à l'hôpital. Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont dit, écoutez, venez nous voir demain, on vous expliquera. Donc je suis allé voir l'hôpital, donc ils m'ont dit qu'elle est atteinte d'une maladie mentale et je dois signer un papier pour la faire interner, enfin hospitaliser en psychiatrie. Donc je vois ça. Ben écoutez, j'ai accepté parce que c'était pour des soins. Donc ils l'ont mis dans une structure.
Est-ce que vous l'avez vu à ce moment-là? Est-ce que vous avez pu lui parler?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Parce qu'elle était, en fait, ils lui ont mis une injection en fait pour l'endormir. Parce qu'en fait, ils l'ont ramassée dehors dans un café. Elle était dans un café. Et je ne sais pas ce qui se passait, elle est tombée ou elle a fait des délires au fait. Elle a commencé à délirer et les gens, ils ont appelé les pompiers et elle a été rapatriée dans un hôpital comme ça. Donc moi, je ne l'ai pas vue à l'époque. Donc j'ai signé le papier, j'ai parlé au psychiatre, il m'a expliqué tout ce qui, voilà, comment ça va se passer. Donc j'ai signé le papier, je suis reparti. Et suite à ça... 3-4 jours après, le médecin m'avait dit de passer quand je voulais. Je suis passé le voir et au bout d'un moment, j'ai fait une demande pour la voir. Il m'a dit, écoute, il m'a dit, aujourd'hui, ça ne sera pas possible, mais demain, je vais t'organiser une rencontre. Donc, je l'ai vu, au fait, le 4e jour de son hospitalisation. Je l'ai vu, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré. Et au bout d'un moment, le médecin nous a dit, si vous voulez rester ensemble, j'ai dit oui, on est resté ensemble un moment, on s'est baladé. Et franchement, elle m'a fait de la peine, parce que c'est quelqu'un qui est intellectuellement très correct, on va dire, pour ne pas être dans le... Et je l'ai trouvé dans un lieu qui qui ne lui correspondait pas.
Mais vous ne l'avez pas reconnu, quoi.
Carrément. Je ne l'ai pas reconnu. Oui, exactement, c'est le mot. Et au fait, je me suis renseigné après cette rencontre, et je me suis renseigné tout de suite, le même jour, sur les modalités de la faire sortir. Parce que j'en pouvais plus de penser qu'elle était comme ça, là-bas. Donc j'ai fait la démarche le même jour pour la ressortir. Ça m'a pris deux, trois jours. Donc du coup, elle est restée une dizaine de jours dans cette structure. Donc je l'ai récupérée après cette escapade à l'hôpital, mais avec des conditions, bien
c'est,
sûr.
C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les médecins, à ce moment-là? Parce que c'est pas si évident de prendre en charge quelqu'un comme ça.
Non, c'est pas évident. Moi, je lui ai fait confiance. J'ai pris la décision de la sortir, mais avec la condition que le médecin a proposée, ça veut dire avoir un suivi psychiatrique dehors, plus le traitement qui lui a été inscrit, prescrit par le médecin. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. En sortant de l'hôpital, elle n'a accepté ni le traitement, ni le suivi en ville, parce qu'elle est dans le déni total de sa maladie. Dans le déni total, et à chaque fois que j'en parle avec elle, pour les traitements, pour le suivi, elle me dit « Tu veux m'inculquer que je suis malade ?»« Tu veux ?» Mais c'est pas moi qui t'inculque. Il s'est avéré que tu es malade par des spécialistes. Et si on creuse un petit peu, il paraît qu'elle a toujours été malade et elle n'a jamais eu de diagnostic. Malheureusement, elle est bipolaire et un petit peu schizophrène en même temps. Et comme elle n'a jamais eu de diagnostic, elle n'a pas été suivie. Mais pendant le confinement et avec ce qui s'est passé dans le sud avec ses membres de sa famille et les souvenirs qui sont remontés, parce que
ça a explosé.
Ça a explosé. Alors, juste un détail, quand elle est remontée du sud, le 1er août, on a passé 3 heures à parler. Enfin, j'ai passé 3 heures à l'écouter. Elle m'a raconté des trucs de son enfance qu'elle a vécu là-bas, dans le sud, mais affreux. Mais un viol qu'elle n'a jamais soigné.
Vous ne saviez pas tout ça?
Je peux vous dire que j'ai découvert des choses que je ne savais pas. Et en fait, c'est une personne qui a une politique ou alors une philosophie. Elle me dit qu'elle cache des vérités. Elle ne ment pas, mais elle cache des vérités. C'est comme ça, sa vie. Et au bout d'un moment, pour vous dire d'autres choses, 3 jours, c'était 3 jours avant de la sortir de l'hôpital, je suis tombé sur une tablette d'enfants, de mes enfants. Je l'ai ouvert et je suis tombé sur son messenger et j'ai découvert des messages. Ça, c'est vraiment la claque que j'ai eue. Elle est rentrée en contact avec un de ses ex, avec des propos qui j'étais effondré. Alors que moi, je m'apprêtais à la sortir de l'hôpital, j'ai découvert que pendant qu'on était séparés là pour le 1 mois et demi, quand elle était dans le sud, elle était dans une relation avec un de ses ex. C'était une relation à sens unique. Il n'y avait que elle, en fait, qui envoyait des messages. Lui, il n'était pas d'accord avec tout ce qu'elle disait. Excusez-moi, je suis un petit peu ému parce que c'était un choc supplémentaire.
Oui, j'imagine bien.
Pardon.
C'est ce qu'on va faire, Balker. On va marquer une nouvelle pause.
Il n'y a pas de souci.
Quelques secondes, comme ça, vous reprenez votre souffle.
Merci beaucoup. C'est très gentil.
À tout de suite.
À tout de suite.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921. 50 centimes la minute.
Balker, vous êtes là?
Oui, toujours.
Et en même temps, j'étais en train de me dire là, que ces échanges-là, est-ce qu'ils ne sont pas simplement venus de son délire à elle? Est-ce que ce ne sont
peut-être
pas des propos
bien,
d'une femme qui avait perdu son équilibre?
Oui, exactement. C'est c'était pendant son délire. Bon,
oui. Donc, ça n'a pas la même valeur quand même.
Non, ça n'a pas la même valeur. C'est pour ça que moi, je les ai acceptés. Je les ai acceptés. Par contre, j'ai essayé d'avoir des explications. Au départ, les a niées. Voilà. Et au bout d'un moment, je lui ai fait entendre, parce que c'était sur la tablette des enfants, et là, bah, elle m'a dit c'était du passé. Mais j'ai dit, mais c'est pas du passé, ça date d'il y a quelques semaines, pratiquement, c'est pas du passé. Alors que cette personne-là, soi-disant, ils ont rompu il y a 10 ans. Ils ont rompu l'année de notre rencontre, en 2010, soi-disant. Sauf qu'après, en fait, après cet épisode, j'ai découvert qu'ils se sont revus amicalement plusieurs fois, voire ils ont même organisé des vacances pratiquement ensemble avec mes enfants. En 2018, je n'insinue rien.
Oui, ça fait beaucoup, hein, tout ça.
Je n'insinue rien, mais il lui a organisé des vacances à l'étranger avec mes enfants. Mmh. Tout ça, je l'ai découvert pendant cette phase. En fait, je me dis des fois que cette phase, c'était juste un déclencheur pour que des vérités se révèlent. Beaucoup de vérités, j'ai découvert beaucoup de mensonges, en fait. Et au bout d'un moment, j'ai eu une discussion avec elle sur ça, sur ces mensonges. Et elle m'a avoué que, en fait, elle mentait comme elle respirait. C'était comme ça. Elle a toujours menti à tout le monde. Et moi, je le savais, hein, je le savais. Mais elle a commencé à l'avouer. Et malgré tout, je l'aime beaucoup parce que c'est une personne très bien. C'est une agréable personne. Je souhaite à tout le monde de rencontrer une personnalité comme ça. Mais ce sont des maladies. On n'y peut rien. Le problème, c'est qu'elle est dans le déni. Donc, quand on est dans le déni, on n'accepte pas d'être soigné. Moi, mon appel, au fait, ne me concerne pas directement. Moi, je veux juste savoir comment la convaincre pour qu'elle se soigne, pour qu'on vive mieux. Parce qu'on a tous les moyens pour vivre bien. Vous savez, cette femme-là, elle a une expérience maritale avant moi, de 15 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Parce que son mari lui a menti. Il ne pouvait pas avoir d'enfant, il lui a menti. Il lui a pas dit la vérité et il l'a fait vivre dans des rêves, voilà, des voyages, etc. Et elle a occulté l'enfant. Bon, ils ont divorcé 15 ans après parce que il lui a spolié tous les biens. Ils avaient beaucoup de biens immobiliers. Mmh. Elle a découvert qu'il a tout mis à son nom. Donc elle s'est fâchée, elle est partie. Elle m'a rencontré, elle a eu des enfants et sa vie, au fait, c'est devenu ses enfants. Au bout d'un moment, je n'existais plus comme mari, j'existais que comme père des enfants. Et elle a disparu comme épouse, elle est devenue la maman de ses enfants. Elle adore ses enfants à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Elle ne leur dit jamais non. Ça, c'est un point de conflit quotidien. Alors,
comment est-ce que vous les gérez là ? Est-ce que vous avez réussi à mettre des mots sur ce qui se passe dans votre famille ?
Pas à mettre des mots.
Ils vous posent pas de questions, les petits ?
Ah, les petits, sur, par exemple.
Bah, sur leur maman, sur son hospitalisation, sur ce qui s'est passé.
Ils n'en savent rien du tout. Pour eux, ils étaient en vacances chez la famille. Ils ont fait le tour de France et ils sont revenus chez eux. Pour l'hospitalisation, je l'ai géré de manière à qu'ils ne sachent rien. Même quand j'allais la voir tout seul. Je l'ai fait garder par un ami chez moi. Ils ne savent rien de cette hospitalisation.
Ils doivent quand même bien voir et sentir que leur maman ne va pas très bien.
Elle a fait quelques phases, au fait, dernièrement. À la phase dépressive, où elle a commencé à délirer, à dire des choses. J'en ai parlé avec eux 2 secondes, franchement, mais je compte quand même les faire suivre quand j'aurai le temps.
Mais c'est important.
Oui, bien sûr. Même moi, j'ai vu quelques spécialistes, j'ai vu un thérapeute, j'ai vu un psychiatre, j'ai vu un psychologue. J'essaie aussi d'extérioriser, au fait, mes angoisses et mes souffrances, bien sûr. Sauf que l'intéressé, c'est elle, et elle ne va pas voir les spécialistes.
Si vous voyez tous ces thérapeutes-là, Balkia, vous devez bien savoir que malheureusement, il n'y a pas de solution miracle pour forcer quelqu'un qui ne veut pas se soigner. J'aimerais bien qu'il y en ait une, et si je pouvais vous en suggérer une, mais il n'y en a pas.
Malheureusement.
La seule chose, c'est la patience et l'amour.
Mais je lui donne beaucoup d'amour, vous ne pouvez pas savoir.
Je l'entends, et espérer qu'un jour, dans une petite fenêtre de lucidité, elle arrivera à capter un conseil qu'elle suivra. Mais ça, c'est... On ne peut pas le programmer, ça serait... Voilà, vous voyez, c'est tellement aléatoire, ces moments-là.
Oui, mais...
Tellement fragile.
Que Dieu vous écoute et exauce votre vœu et le mien aussi. La seule chose que les psychiatres m'ont proposé, c'est de la re-hospitaliser.
De force, ça... mais vous avez vu comment ça s'est passé la première fois ?
Oui. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je risque de casser ma famille, casser mon couple.
Sinon, est-ce qu'il y a autour d'elle quelqu'un de confiance, de la famille ou une amie proche, qui pourrait être une sorte d'allié pour vous, qui pourrait vous aider ?
Oui, mais je crains qu'elle ne les écoute pas non plus. Et ça, après, ça va me retomber encore sur la tête, comme si j'étais la personne qui...
manipulait, oui.
Alors que moi, je l'ai sortie, parce qu'elle m'a fait beaucoup de peine. Surtout que c'était fin août, et nous sommes à l'éducation nationale, et le 1er septembre, c'était la rentrée scolaire, et je voulais vraiment pas qu'elle rate son année scolaire.
Ça veut dire qu'elle a repris le travail en septembre ?
Oui, elle a repris le travail avec deux, trois difficultés, avec quelques collègues, je ne vous cache pas.
C'est ce que j'allais vous dire, comment ça se passe ce quotidien ?
Elle a eu, en fait, il y avait quelques collègues avec qui elle ne s'entendait pas, et là, elle a commencé à dire ce qu'elle pensait, alors que c'est quelqu'un qui est calme normalement, qui est très doux, qui encaisse les coups, qui ne fait pas attention au ce que les gens disent, etc. Mais là, elle a eu deux explosions, elle m'a raconté, hein, deux explosions au boulot, surprenant. Même dans une réunion avec le proviseur, etc. C'était venant d'elle, très 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 étonnant, mais je suis sûr que c'est dû à la maladie encore. Avec les élèves, ça se passe bien. Par contre, en classe, tout se passe bien, son travail est nickel. Maintenant, l'année n'est pas finie, elle est un petit peu perturbée par ce Covid. Et je ne sais pas comment ça va se finir. Moi, la seule option qu'on m'a donnée, c'est de la remettre une hospitalisation, voire une maison de repos, mais elle n'en veut pas, elle est dans le déni.
Vous allez vivre en permanence sur le fil, c'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour rester dans un quotidien possible. Et puis malheureusement, le jour où il y aura où ça va déraper, un dérapage trop, trop dangereux pour elle ou pour les enfants, vous serez obligé de refaire effectivement...
Je dois vous
une démarche comme ça. Quoi.
Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait. Je dois vous préciser que là, pendant les mois, elle a fait deux choses qui m'ont vraiment choqué. Une fois, elle a laissé la porte ouverte de l'appartement avec un feu allumé. C'était une cocotte minute. Je suis rentré, la porte ouverte. Et quand elle est rentrée, j'ai dit « Pourquoi t'as laissé la porte ouverte ?» Elle m'a dit « J'ai pas retrouvé mes clés. » Et je suis reparti, j'ai laissé la porte ouverte. Comme ça, quand je rentre, elle est ouverte.
Elle met tout le monde en danger, quoi.
Oui. La deuxième fois, c'était le lendemain de cet événement. Le lendemain, je rentre, je trouve mon enfant de 8 ans avec sa tablette et le feu allumé. Une cocotte encore. Et j'ai attendu. Ben, 1h30, elle arrive. Avec des courses. J'ai dit, écoute, la première fois, c'était le feu, la porte ouverte. Là, c'est le feu avec un enfant. Mmh. Avec un enfant. Le feu, on ne lui fait pas confiance. Alors que c'est une personne qui fait tellement attention au gaz. Vous vous rendez compte, nous n'avons pas le droit de laisser le robinet de gaz ouvert quand on utilise le gaz à la maison, il faut qu'on ferme après.
C'est là où je vous dis que vous êtes sur le fil, c'est-à-dire que là, c'est un comportement où, c'est à mon avis, à la limite de ce qui est acceptable au niveau du danger. C'est-à-dire que vraiment, il n'en faudrait pas beaucoup plus pour la faire hospitaliser à nouveau.
Non, il ne faudrait pas plus, mais on m'a dit d'appeler les pompiers et la police en même temps. J'ai pas envie que mes enfants vivent un événement comme ça.
Mais est-ce que vous êtes encore en contact avec l'équipe qui s'est occupée d'elle à l'hôpital?
Je peux l'être.
Ça me paraîtrait vraiment important de leur parler, de leur demander leur avis là-dessus.
Vous avez tout à fait raison. Je peux vous dire que tous les jours, ça me démange de les appeler. Surtout le médecin, il est vraiment agréable. Il m'a dit appelez-moi à tout moment.
Faites-le, Balker. Surtout faites-le. Parce qu'ils la connaissent. Ils savent, vous voyez. C'est quand même...
C'est des gens très agréables, franchement.
En plus, alors si vous avez cette chance-là, profitez-en, parce que ce sont vraiment eux qui sont les mieux placés pour vous parler d'elle, de
tout
vous et des solutions envisageables ou pas, quoi.
D'accord.
Parce qu'ils sont, d'abord, ils sont des pros. Si en plus ils sont agréables, tant mieux, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, oui.
Compétents et agréables. Franchement, en quelques heures, ils ont détecté le syndrome. Ils m'ont bien expliqué, ils l'ont géré d'une manière agréable, franchement.
Alors, dès lundi matin, appelez-les.
Dès lundi, oui.
Et faites-leur part de votre détresse et de tout ce qui se passe.
Oui. Je ne vous cache pas que je n'en peux plus, au fait.
Ben, j'entends ça et je comprends parce que vous êtes dans une position tellement douloureuse, tellement difficile.
Je craque. Du crack, il m'arrive de pleurer, il m'arrive de... Physiquement, je ne peux plus travailler, au fait. Je suis en arrêt depuis plus d'un mois.
Ouais, c'est trop lourd tout ça.
Pour les voir compte, c'est... Là, j'ai repris, j'ai vu un médecin aujourd'hui, j'ai encore pris un arrêt maladie, j'ai plus l'usage de mes mains. Je ne peux plus rien faire de mes mains. J'ai contracté une maladie des mains. Et c'est nerveux, apparemment.
Mais vous êtes au bout de ce que vous pouvez supporter, là, j'ai l'impression.
Oui. J'ai perdu du poids. Mes enfants me disent « tu as des trous dans le visage ». Alors, c'est une perte de poids, en fait. J'ai perdu 6 kilos.
Est-ce que vous avez des proches, des amis autour de vous qui sont là quand même pour vous écouter, vous soutenir?
Aucun. Ah. Aucun. J'avais un ami qui m'a soutenu... Lorsque ma femme était à l'hôpital, et au fait, depuis que je l'ai sortie de l'hôpital, je me suis coupé parce que je gère une malade, au fait.
Mmh. C'est compliqué.
Je gère une malade. Au bout d'un moment, j'ai pris un arrêt maladie pour la suivre dehors quand elle sortait. Je ne pouvais pas lui interdire de sortir, donc je la suivais. En fait, je sortais avec elle quand elle faisait les courses. On faisait des courses de malades, des courses pour des régiments. Et lorsque je n'étais pas avec elle, elle ramenait des sacs et des sacs. C'était affreux. Au bout d'un moment, elle avait mal partout.
Oui, mais tout ça, vous le savez, c'est lié à ces symptômes, à cette maladie-là. Là, je vous dis que vous êtes sur le fil, c'est qu'il faut vraiment trouver le moment où c'est plus possible. Et je crains que vous soyez à ras de ce moment-là. Vraiment, ça commence à être beaucoup trop lourd pour vous.
Oui. Je ne vous cache pas que des fois...
Et si vous ne tenez pas debout, les enfants ne tiendront pas debout non plus. Hein.
Exactement. Mais c'est ce que je lui ai dit depuis le départ. Je lui ai dit, si tu ne te soignes pas, je vais craquer aussi. On va tous tomber dans la maladie et les enfants, ils vont souffrir.
Qu'est-ce qu'elle répond à ça?
Rien. Elle ne reste pas avec moi. Elle bouge. Elle part dans une autre chambre. À chaque fois que je la mets devant des fêtes accomplies, elle part. Le déni total, elle ne veut pas savoir. J'ai toujours prévenu, je l'ai toujours prévenu de ce qui se passe aujourd'hui.
Mais alors attention, j'y pensais justement, faites attention quand même de ne pas vous mettre en danger si par exemple vous lui dites que vous avez l'intention de la faire hospitaliser, qu'elle ne disparaisse pas avec les enfants, vous voyez.
Non. Oui, vous avez tout à fait raison. Non, j'ai pensé à ça. En fait, moi j'essaie de faire de manière à qu'elle fasse la démarche elle-même.
Elle ne le fera pas.
Je sais.
Elle est dans le déni. C'est... Les gens qui ont ces pathologies-là ne peuvent pas faire ça, ne peuvent pas se prendre en charge seuls. Vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas.
Je sais, je le sais malheureusement, mais je rêve, comme qui dirait l'autre, je suis en train de rêver.
Mais je pense que vraiment la première chose à faire, c'est de rappeler ces médecins-là qui la connaissent bien.
Et qui, ah oui, ça, dès lundi, hein, je vais.
Qui vont être là pour vous aider d'une manière peut-être plus concrète, vous voyez.
Absolument. J'ai hésité parce que je sais bien qu'est-ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire appelez les pompiers et faites-la revenir chez. Parce que, au fait, le médecin à l'époque, il m'a dit qu'il lui fallait un élément, un électrochoc. Sauf que malheureusement, l'électrochoc n'a pas été très fort. Une dizaine de jours, c'était pas assez. Parce que lui, le psychiatre, il voulait la mettre en maison de repos. Moi, je lui ai dit, écoute, maison de repos, je préfère qu'elle reste à la maison et qu'elle fasse son suivi à l'extérieur.
Oui, mais là, avec le recul, vous vous rendez compte que ce n'était pas une bonne idée.
Que c'était une erreur.
Et que c'était une erreur. Bon, maintenant, vous l'avez vécu, vous l'avez su, vous en avez appris quelque chose.
Oui. Ah oui.
Et donc, l'idée, c'est de ne pas commettre la même erreur maintenant une deuxième fois, vous voyez.
Tout à fait.
Et d'aller peut-être au bout de cette démarche-là, pour elle, pour vous et pour les enfants.
Voilà. Moi, j'ai essayé de faire du mieux, bien que je me suis trompé, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Là, il faudrait que je rectifie un petit peu mon erreur, bien que ça ne va pas lui plaire, en prenant le risque.
Ça ne va pas lui plaire, mais il faut vraiment que vous restiez dans cette optique que c'est évidemment pour son bien, pour le vôtre et pour le bien de vos enfants.
Tout à fait, vous avez tout à fait.
Quelqu'un qui n'est pas dans l'axe comme elle, que ça lui plaise ou pas, ce jugement n'est pas sain, il n'est pas équilibré, vous l'avez bien compris.
Exact.
Donc, quel que soit ce qu'elle en pense, malheureusement, vous ne pouvez pas en tenir compte. Parce que celui qui tient encore debout, pour l'instant, c'est vous, c'est pas elle.
Oui, tout le monde lui a dit ça, malheureusement. Même les non-spécialistes de la psychiatrie, de la psychologie au commissariat, on lui a dit que votre mari... Elle me l'a dit, ils ont dit que votre mari raisonne bien. Ça veut dire ce que ça veut dire, ils se sont rendus compte qu'elle était dans un délire, même si c'était pas des professionnels de la psychiatrie.
Ils ont un peu l'habitude aussi. Hein.
Oui, 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 oui.
Ah oui, malheureusement.
Ça, oui. Ben écoutez, merci pour vos conseils.
Malheureusement, j'ai évidemment pas de solution miracle à part vous souhaiter plein de courage, vous envoyer plein d'énergie.
Merci beaucoup.
Et puis surtout ne vous culpabilisez pas, parce que j'entends aussi en toile de fond chez vous un côté « c'est de ma faute, je devrais pouvoir faire autrement, j'y arrive pas ».
Le problème, c'est qu'elle me culpabilise surtout. Et des fois, quand elle est dans une phase raisonnable et elle accepte un moment sa maladie, elle me dit que c'est à cause de toi.
Mais ça aussi, c'est typique des gens qui ont ces pathologies-là.
Oui, je sais, parce que j'ai étudié cette maladie, en fait. Je me suis renseignée.
Quand elle vous dit des choses comme ça, comprenez bien que ce n'est pas elle qui vous parle, c'est la maladie qui parle.
Tout à fait.
Essayez autant que possible de la dissocier, elle, de la maladie, vous voyez.
C'est ce que j'essaie de faire, mais parfois c'est pas évident.
Je sais bien que ce n'est pas évident. Bien sûr, ce n'est pas évident. Et vous êtes déjà très courageux et costaud d'avoir tenu jusque-là, déjà, à bout de bras, tout ça.
Oh, beau Dieu, si je vous racontais tout, là, c'était juste un aperçu. C'était juste un aperçu parce que je sais qu'il y a d'autres auditeurs qui veulent exprimer leurs souffrances et raconter leurs histoires. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je souhaite beaucoup de courage à vous et à tous les auditeurs.
C'est moi surtout, Balker, qui vous souhaite le meilleur, vraiment. Et j'espère que vous allez trouver cette force, cette lumière en vous qui va vous permettre de continuer.
Je la trouverai grâce à vous et grâce à toutes les personnes qui sont là pour aider l'autre.
Bravo Balka, je vous embrasse très fort.
Moi aussi. Au revoir Sabine.
Au revoir. Bon courage.